Bonjour, aujourd'hui on va se plonger dans un dossier judiciaire particulièrement dense. Une affaire qui a vraiment secoué le paysage politique français. On parle de ces soupçons de financement libyen, de corruption. Ça implique des personnalités politiques de tout premier plan.
Oui, bonjour. On va effectivement décortiquer des extraits d'un jugement pénal. C'est une enquête de longue haleine sur des soupçons qui visent Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux.
Mais pas seulement eux, il y a aussi des intermédiaires présumés, comme Ziad Taqiyeddine, Alexandre Djouri.
Tout à fait. Et puis des figures du régime de Kadhafi, Bachir Saleh par exemple, et aussi des acteurs financiers comme la famille Bukchan. C'est un dossier très large.
Et notre source donc, c'est ce jugement.
C'est ça, un document judiciaire très détaillé qui retrace l'enquête, les faits reprochés. On parle de financement de campagne, corruption, blanchiment complexe, fraude fiscale aussi. Mais il expose aussi les arguments de chacun, l'analyse du tribunal. Ah, et une petite précision technique peut-être, le tribunal a dû fixer l'orthographe de certains noms, comme Bugeshan ou Taqiyeddine, en se basant sur les passeports. C'est un détail, mais ça montre la complexité dès le départ.
D'accord. Alors, notre objectif ici, c'est quoi? C'est de comprendre les points essentiels de ce jugement. Quelles sont les accusations principales? Qui est vraiment impliqué et pourquoi? Comment fonctionnaient ces mécanismes financiers présumés? Et puis, les enjeux juridiques derrière tout ça. Parce qu'ils sont énormes, j'imagine.
Absolument. On va essayer de décrypter tout ça.
Alors, commençons peut-être par le contexte. Pour bien saisir l'affaire, il faut revenir un peu en arrière sur les relations entre la France et la Libye à cette époque.
Oui, c'est indispensable. Le document judiciaire le rappelle d'ailleurs. Au début des années 2000, après des années de froid, voire d'embargo à cause de l'attentat contre le voir UTA.
L'attentat de 1989, oui.
Exactement. Eh bien, il y a une normalisation qui s'opère. La Libye indemnise les victimes, les relations diplomatiques reprennent, il y a des visites officielles.
Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, se rend à Tripoli en 2005, c'est mentionné.
C'est ça. C'était la Libye de Kadhafi, un régime très particulier, un pouvoir assez opaque, avec des structures officielles, le Congrès populaire, les comités révolutionnaires, mais aussi et surtout un pouvoir informel très fort autour du guide, de sa famille, de sa tribu.
Et deux figures clés comme Abdallah Senoussi, le chef des services secrets, beau-frère de Kadhafi.
Oui, ou encore Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi. C'est dans ce contexte très spécifique que l'affaire prend racine.
D'accord. Alors, qui sont les principaux mis en cause dans ce dossier selon les extraits qu'on a?
Alors, au premier rang, on trouve Nicolas Sarkozy. Les soupçons le concernant portent sur le financement de sa campagne de 2007, mais aussi des faits présumés de corruption passive et d'association de malfaiteurs.
Et Claude Guéant, son très proche collaborateur à l'époque.
Lui, il apparaît vraiment comme un personnage central dans plusieurs volets de l'affaire. Il est mis en examen pour beaucoup de choses. Blanchiment, faux et usage de faux, recel de détournement de fonds publics, corruption passive, association malfaiteur. La liste est longue.
Brice Hortefeux est également cité.
Oui, pour un rôle potentiel aussi dans le financement de campagne et pour association de malfaiteurs. Sa défense a d'ailleurs soulevé la question de sa compétence ministérielle, on y reviendra peut-être.
Et de l'autre côté, si on peut dire, les intermédiaires, les Libyens?
Alors, Ziad Taqiyeddine, son nom revient constamment. Il est présenté comme un intermédiaire clé, soupçonné notamment d'avoir transporté des espèces.
Ses déclarations ont été très médiatisées, changeantes aussi.
Tout à fait. Le jugement souligne d'ailleurs ces contradictions, cette fiabilité parfois mise en doute. Il a été condamné pour faux témoignage dans l'affaire Karachi, ce qui a rappelé.
Et Alexandre Djouri.
Lui aussi, c'est une figure centrale. Impliqué dans des montages financiers présumés complexes, il est suspecté de complicité, de blanchissement, de détournement de fonds publics, de corruption, de fraude fiscale, d'association de malfaiteurs. Il aurait joué un rôle clé, notamment dans l'exfiltration de Bachir Saleh.
Bachir Saleh, justement. L'ancien directeur de cabinet de Kadhafi.
Oui, et patron du LAIP, un important fonds souverain libyen. Lui est poursuivi pour détournement de fonds publics, étrangers, corruption, association de malfaiteurs.
Une figure très importante du régime Kadhafi.
C'est vraiment un réseau qui se dessine. Il y a d'autres noms importants?
Oui, il faut absolument mentionner la famille Bugeshan. C'est un groupe saoudien très puissant. Deux membres, Khalid Ali et Ahmed Salem Bugeshan, sont accusés de blanchissement, de complicité de détournement et de corruption.
Leur compte en Suisse aurait servi de pivot, c'est ce que suggère l'instruction. Et il y a Waïb Nasser, un proche des Bokchan, qui aurait géré ses comptes et des biens immobiliers. Lui aussi est poursuivi pour blanchiment, complicité de corruption, association de malfaiteurs.
Et enfin, un avocat malaisien.
Sivajyoti Rajendral, oui, il intervient dans un volet très précis qui concerne les 500 000 euros de Claude Guéant.
Bien. Alors, entrons dans le vif du sujet, les faits eux-mêmes. L'accusation qui a fait le plus de bruit, c'est celle du financement présumé de la campagne présidentielle de 2007. Sur quoi ça repose, d'après le jugement ?
C'est basé en grande partie sur des déclarations faites après la chute de Kadhafi en 2011, par d'anciens hauts dignitaires libyens.
Comme Saïf al-Islam Kadhafi ou Abdallah Senoussi ?
Oui, mais le jugement est prudent. Il note que ces témoignages peuvent être contradictoires. D'autres responsables libyens, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères Chalgam, ont donné des versions différentes. Ce n'est pas un bloc monolithique.
Et puis il y a eu ce document fameux, la note Moussa Koussa, publiée par Mediapart.
Ah oui, cette note qui parlait d'un accord de principe pour 50 millions d'euros, elle a été au centre de beaucoup de controverses.
Son authenticité surtout.
Exactement. Moussa Koussa lui-même a dit ne pas l'avoir signée, mais il a eu cette phrase ambiguë disant que le contenu n'était pas faux. Les enquêteurs, eux, ont estimé qu'il s'agissait probablement d'un faux document.
Il y a eu un non-lieu dans la procédure pour faux, c'est ça ?
Oui, la justice n'a pas tranché définitivement sur son authenticité dans ce cadre-là, mais le doute persiste fortement.
Et il y a les fameuses valises d'argent liquide de Takieddine.
C'est l'autre pilier de l'accusation sur le financement, les déclarations de Ziad Takieddine affirmant avoir remis en plusieurs fois 5 millions d'euros en cash.
Directement à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy, fin 2006, début 2007.
C'est ce qu'il a affirmé. C'est une accusation extrêmement grave et directe. Mais là encore, le jugement souligne le manque de preuves matérielles directes pour corroborer ses dires. Et il insiste beaucoup sur les doutes concernant la crédibilité de Takieddine.
Ses changements de version, sa condamnation dans l'affaire Karachi.
Voilà, tout ça pèse sur la fiabilité de son témoignage aux yeux du tribunal, tel que rapporté dans ses extraits.
C'est un casse-tête pour la justice, j'imagine. D'un côté, des accusations fortes, de l'autre, des preuves qui semblent difficiles à établir de manière irréfutable.
C'est tout le défi. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée au témoignage. Elle a suivi des pistes financières.
Ah oui, les flux d'argent.
Oui. Et là, le document devient très technique. Il détaille des virements jugés suspects vers les comptes de Takieddine.
Depuis la Libye ?
Oui, depuis des entités libyennes, comme le Trésor public ou les services secrets. On parle de près de 6 millions d'euros sur son compte Rosfil, fin 2005, fin 2006.
Et le lien avec les espèces ?
C'est surtout les retraits. Des retraits massifs en espèces sur ses comptes en Suisse, environ 2,6 millions d'euros. Et ces retraits coïncident souvent avec ses déplacements, notamment à Paris.
Donc, l'accusation fait le lien. Cet argent retiré en Suisse aurait pu servir à alimenter les remises d'espèces qu'il décrit.
C'est l'hypothèse de l'accusation, oui. Un circuit possible.
Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments financiers examinés en lien avec la campagne elle-même ?
Oui, il y a eu des témoignages de personnes ayant travaillé sur la campagne de 2007. Des permanents qui disent avoir reçu des primes en espèces.
Ah, et ça représente beaucoup ?
Une note d'une assistante spécialisée a tenté d'estimer un montant global, qui était assez élevé, autour de 250 000 euros, si ma mémoire est bonne. Mais la défense a fortement critiqué la méthodologie, la jugeant trop spéculative.
Et la question du dépassement du plafond des dépenses de campagne ?
Elle a été soulevée aussi. L'enquête a pointé des possibles discordances entre la comptabilité de l'UMP et le compte de campagne officiel. Mais là encore, le document semble indiquer que ça ne constitue pas une preuve directe du financement libyen. C'est un faisceau d'indices, si vous voulez.
D'accord. Passons à un autre volet très médiatisé. L'affaire des 500 000 euros, ceux versés sur le compte de Claude Guéant en mars 2008. Quelle était l'explication officielle ?
L'explication fournie par Claude Guéant, c'était la vente de deux tableaux, des peintures flamandes du XVIIe siècle d'un certain Andries van Arsvelt.
Vendu à qui ?
À un acheteur malaisien, via cet avocat dont on a parlé, Sivajoti Rajendram.
Mais cette version a été mise à mal par l'enquête, n'est-ce pas ?
Très sérieusement, oui. D'après le document judiciaire, plusieurs choses clochent. D'abord, l'acheteur malaisien. On ne l'a jamais retrouvé. Introuvable.
Gênant.
Ensuite, l'argent. Il vient bien du compte de l'avocat Rajendram, mais ce compte a été alimenté juste avant par un virement. Et ce virement venait d'où ? Du compte personnel de Khalid Ali Boukjan en Arabie Saoudite.
Donc, pas directement de l'acheteur présumé ?
Non. Et l'avocat Rajendram lui-même a donné des déclarations jugées contradictoires. Les documents fournis pour justifier la vente, une facture, des certificats d'authenticité ont aussi paru suspects aux enquêteurs.
Et c'est là que l'instruction fait un lien avec une possible corruption.
Exactement, c'est le cœur du soupçon. L'accusation pense que ces 500 000 euros ne sont pas le prix de tableau.
Mais plutôt une contrepartie.
Une contrepartie, oui. Une rémunération occulte pour des interventions de Claude Guéant. Il était à l'époque secrétaire général de l'Élysée, un poste extrêmement influent.
Des interventions en faveur de qui?
Principalement en faveur d'Alexandre Djouri. Le montage financier suspecté pour ce versement passerait d'ailleurs par les comptes Buchan, gérés par Wahib Nasser, et impliquerait Djouri.
Et pour quel service présumé?
L'instruction évoque plusieurs pistes. Des aides pour que Djouri touche des commissions sur des contrats aéronautiques avec EADS Airbus, ou encore une intervention pour régler un problème fiscal concernant une société liée à Djouri, la société Aklal.
Aklal, ça nous mène à l'affaire de la villa de Mougine.
Tout à fait. Il y a aussi cette mention d'un cadeau fait par Djouri à Guéant en 2006, une montre de luxe, une Patek Philippe, qui est replacée dans ce contexte de possible pacte corruptif.
Alors cette villa de Mougine, la villa Nabila, c'est quoi l'histoire?
C'est une autre affaire imbriquée. En 2008, un fonds souverain libyen, le LAIP, celui dirigé par Bachir Saleh, achète une société. Une société de droit néerlandais, Aklal Holding NV.
Pour un montant important?
Oui, plus de 10 millions d'euros. 10,14 millions exactement.
Et cette société Aklal, elle appartenait à qui avant?
L'instruction la relie très clairement à Alexandre Djouri, même si c'était via des prête-noms et des sociétés écrans. Notamment une structure appelée Bedux Management, pilotée par Wahib Nasser.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette société Aklal pour valoir 10 millions d'euros?
C'est là que ça devient intéressant. Elle n'avait qu'un seul actif réel, cette villa à Mougins, la villa Nabila.
Une seule villa, pour 10 millions?
Voilà le problème. Une expertise judiciaire a été réalisée. Elle a estimé la valeur de la villa à 1,8 million d'euros. Très, très loin des 10 millions payés par le fonds libyen.
Même l'estimation administrative était plus basse.
Oui, les domaines l'avaient estimée à 4,4 millions, mais sans visite. Donc, on a une transaction à 10 millions pour un bien qui en vaut, selon la justice, moins de 2.
D'où le soupçon de détournement de fonds publics libyens.
Exactement. L'accusation y voit une surévaluation massive organisée au bénéfice final présumé d'Alexandre Djouri, le vendeur indirect.
Et il y avait un projet immobilier lié à ça?
Oui, un projet DHPAD de luxe, une maison de retraite médicalisée très haut de gamme. Mais l'instruction juge ce projet bâclé et illusoire, peu crédible.
Et il y avait aussi une histoire de taxes impayées.
Oui, un autre élément troublant qui s'ajoute. La société Aklal devait une taxe spécifique, la taxe de 3%, pour un montant d'environ 1,4 million d'euros.
Et qui a payé?
Ben justement, ce passif fiscal a été transféré à l'acheteur, le fonds libyen LIP. Il a acheté la société avec la dette fiscale.
Et là aussi, soupçon d'intervention.
Oui, des documents saisis lors de l'enquête suggèrent que Djouri aurait tenté, avec l'appui présumé de Guéant, d'intervenir auprès du ministère du budget via une cellule fiscale spéciale pour faire annuler cette taxe, ce qui alimente encore les soupçons de trafic d'influence ou de corruption.
On voit bien comment toutes ces affaires semblent liées et surtout comment elles reposent sur des systèmes financiers assez opaques.
Tout à fait. C'est un aspect central du dossier. Le jugement décrit ce que l'instruction appelle une véritable chambre de compensation occulte.
Une chambre de compensation occulte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
C'est une image pour décrire un système financier parallèle. L'idée, c'est d'utiliser des comptes bancaires principaux, ici ceux des cousins Buchan en Suisse, comme des comptes hôtes.
Des comptes sur lesquels il y a beaucoup d'argent qui circule légitimement.
Voilà, des flux très importants. Et cette masse d'argent permettrait, selon l'accusation, de masquer ou de faciliter des opérations pour le compte de tiers.
Comme Alexandre Djouri?
Oui, par exemple. Des relevés bancaires annotés par Wahib Nasser, le gestionnaire présumé, mentionneraient des opérations liées à AD, ses initiales supposées.
Et comment ça fonctionne techniquement?
Les mécanismes décrits sont assez sophistiqués. Utilisation de comptes rebonds où l'argent ne fait que transiter très vite. Création de sortes de sous-comptes invisibles pour la banque pour suivre les avoirs de chaque client caché.
Et des compensations?
Oui, c'est clé. On compense des dettes et des créances entre différents bénéficiaires de ce système sans forcément faire de virements visibles. Ça permet de régler des transactions de manière très discrète et ça facilite aussi les retraits massifs en espèces.
Un système rendu possible par le volume d'argent sur les comptes principaux et peut-être une surveillance bancaire moins regardante.
C'est ce que suggère l'analyse, oui. Une gestion qui permettait une certaine opacité.
Et ce système aurait aussi servi les intérêts personnels de Wahib Nasser.
Oui, l'accusation le vise aussi pour ça. Il aurait utilisé ces mécanismes et des prête-noms, comme Khalid Boukchane, pour dissimuler son propre patrimoine immobilier.
Pour échapper à l'impôt.
Notamment à l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Il avait des biens à Paris, La Baule, en Normandie, à Marrakech. Dissimulé derrière des sociétés ou des noms saoudiens.
Tout ça a mené à une procédure judiciaire extrêmement longue, complexe, pleine d'obstacles juridiques, j'imagine.
Oui, l'instruction a duré plus de 10 ans. Il y a eu de nombreuses mises en examen, souvent supplétives, c'est-à-dire qu'on ajoute des qualifications au fur et à mesure, des contrôles judiciaires.
Et des mandats d'arrêt.
Plusieurs. Contre Khalid Boukchane, Bachir Saleh et Alexandre Djouri, avant qu'ils ne soient finalement extradés de Londres après une longue bataille. Et puis il y a eu la fuite de Ziad Tekedine au Liban.
Et sur le plan juridique pur, les avocats de la défense ont soulevé beaucoup de points.
Énormément. C'est une vraie bataille de procédure. Une des contestations majeures, c'était la compétence du tribunal.
Ah oui, la fameuse question de la Cour de justice de la République, la CJR.
Exactement. La défense de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux a soutenu que seuls les actes commis en tant que ministre pouvaient être jugés et que ça relevait de la CJR, pas du tribunal correctionnel.
Et le tribunal a répondu quoi ?
Il a rejeté cet argument. Il a considéré que les faits reprochés, ici notamment l'idée d'un pacte corruptif pour financer une campagne électorale, étaient détachables des fonctions ministérielles, qui pouvaient être jugées par la juridiction ordinaire.
Un point juridique crucial. Et l'immunité présidentielle de Nicolas Sarkozy.
Elle a aussi été invoquée, bien sûr, pour les actes qui auraient été commis pendant son mandat, entre 2007 et 2012. Le tribunal a dû analyser précisément la période visée par les accusations et la nature des faits.
Comme l'aide présumée à l'exfiltration de Bachir Saleh en mai 2012.
Oui, c'était juste après la fin de son mandat. Est-ce que ça tombait encore sous le coup de l'inviolabilité temporaire garantie par la Constitution ? C'est le genre de question très technique que le tribunal a dû trancher.
Il y a eu d'autres contestations importantes.
Sur la procédure, oui, beaucoup. La compétence territoriale, par exemple. Peut-on juger en France un détournement de fonds publics commis à l'étranger par un étranger, comme Bachir Saleh ?
Et la réponse a été oui.
Oui, le tribunal l'a retenu, en disant que c'était lié de manière indivisible à d'autres infractions commises en France ou impliquant des Français, comme la corruption reprochée à Djouri. Et aussi parce que le blanchiment, lui, est considéré comme une infraction autonome commise en France.
La prescription a aussi été soulevée pour certains faits anciens.
Oui, par plusieurs défenses. Et puis toute une série de demandes de nullité, l'ordonnance de renvoi jugée imprécise, la durée excessive de la procédure, plus de 10 ans, des problèmes de traduction de documents pour certains prévenus étrangers.
Ou encore le principe « non bis in idem », ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.
Oui, le cumul de qualifications a été contesté. La plupart de ces moyens de nullité ont été rejetés en première instance, le tribunal estimant par exemple que l'ordonnance était suffisamment précise ou que la question du cumul relevait du jugement sur la culpabilité et non de la procédure elle-même.
Ces batailles de procédure, ça montre bien à quel point ce genre d'affaire est complexe. On est sur des faits anciens, internationaux, qui mêlent politique, finance. C'est un défi pour la justice.
Absolument. Ça illustre la difficulté à qualifier juridiquement des actes qui se sont déroulés dans des contextes politiques et diplomatiques très particuliers, et aussi à jongler avec les statuts spécifiques des personnes mises en cause, anciens présidents, ministres.
Et sur le fond des accusations, comment les prévenus se défendent-ils globalement ?
Ils nient en bloc, évidemment. Leur défense repose sur plusieurs axes. D'abord, l'absence de preuves matérielles directes, surtout pour le financement initial de 2007. La preuve irréfutable manque, selon eux.
Ils attaquent la crédibilité des témoins clés.
Oui, c'est un argument majeur. Tekedine, les dignitaires libyens, la défense souligne leurs contradictions, leurs revirements et suggère qu'ils pourraient avoir leurs propres motivations, leurs propres agendas.
Et pour les flux financiers suspects ?
Ils proposent des explications alternatives. Des opérations commerciales tout à fait légales, des prêts entre amis, de la gestion de patrimoine classique. Ils essayent de démontrer que ces mouvements d'argent n'ont rien d'illicite.
Ils rappellent aussi que les comptes de campagne de 2007 avaient été validés à l'époque.
Oui, par la Commission nationale des comptes de campagne. C'est un argument qu'ils utilisent. Et puis, bien sûr, ils continuent d'invoquer la prescription, pour certains faits, ou l'autorité de la chose jugée quand une décision antérieure existe sur un point précis.
Bon, alors, si on essaye de prendre un peu de recul, après avoir exploré ces extraits du jugement, quelle est l'impression générale ? C'est une affaire absolument tentaculaire, d'une complexité folle.
C'est exactement ça. Ce qui ressort, c'est qu'on est face à des accusations extrêmement graves. Elles touchent potentiellement le plus haut niveau de l'État français et mettent en lumière des réseaux d'influence très puissants, très opaques.
Ces accusations sont étayées par pas mal d'éléments quand même.
Oui, par un faisceau d'indices. Il y a des témoignages, des documents écrits, même si leur authenticité est débattue. Il y a l'analyse des flux financiers, des écoutes téléphoniques, tout un travail d'enquête considérable.
Mais,
comme le souligne le document judiciaire lui-même à plusieurs reprises, ces éléments sont souvent indirects. Ils sont contestés par les défenses, ils sont sujets à interprétation, et surtout la preuve formelle, directe, irréfutable, semble parfois difficile à établir. Et puis il y a toutes ces contestations juridiques de fond et de forme qui complexifient encore la lecture.
Si on devait essayer de synthétiser les grands axes qui se dégagent de tout ça.
Je dirais qu'il y a trois points majeurs qui ressortent de ces extraits. Premièrement, l'hypothèse du financement libyen pour la campagne 2007. Elle reste vraiment au cœur du dossier. Elle est alimentée par beaucoup d'éléments troublants. Mais sa preuve formelle semble, d'après ce qu'on lit, très difficile à apporter de manière définitive. Notamment à cause des doutes sur les témoins clés et sur certains documents comme la note Koussa.
D'accord. Le deuxième axe.
Ce sont les soupçons de corruption et de trafic d'influence. Là, les indices paraissent peut-être un peu plus concrets, ou du moins plus directement liés à des opérations spécifiques.
L'affaire des 500 000 euros de Guéant, la vente de la villa de Mougins.
Exactement. On a des avantages financiers précis, qui sont mis en regard d'interventions potentielles ou d'aides supposées de la part de personnalités politiques influentes. Le lien de cause à effet reste à prouver, mais les soupçons sont forts.
Et le troisième point ?
C'est la mise en jour de ces systèmes financiers, très sophistiqués, très opaques, passant notamment par la Suisse et les comptes Buchan. Ça illustre vraiment des techniques présumées de blanchiment, de dissimulation d'avoirs, de circulation d'argent occulte à grande échelle. C'est presque une affaire dans l'affaire.
Tout ça, ça soulève une question qui dépasse largement ce dossier finalement. Quand on est face à des réseaux aussi complexes, qui mélangent politique de haut niveau, finances internationales, intermédiaires troubles, secrets d'État peut-être ?
Oui.
Et qu'on ajoute à ça des témoignages qui arrivent des années après les faits, qui fluctuent, qui sont parfois contradictoires, comment la justice peut-elle faire ? Comment peut-elle arriver à établir une vérité factuelle qui soit certaine ?
C'est la question fondamentale.
Comment distinguer ce qui relève de la preuve tangible d'une infraction pénale de ce qui pourrait être des manœuvres politiques, des règlements de compte ou simplement des zones d'ombre impossibles à éclaircir complètement après tant de temps ? C'est vertigineux comme question.
Ça l'est, et ce dossier en est une illustration frappante.
Une question qui restera sans doute ouverte. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration complexe.